boucle notre travail. Alors, vous vous souvenez, la toute première réunion, nous avons parlé du contexte, de l'évolution des procédures, pour vous expliquer un petit peu dans quel cadre on travaillait. Et puis, la dernière réunion qui s'est passée il y a quelques mois, c'est pas très très vieux, on vous a présenté le projet d'aménagement et de développement durable, qui sont donc les grands axes, hein, les grandes orientations que la commune se fixe. Et donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus en concret, hein, puisqu'on arrive à la phase de notre travail où on a élaboré les plans du futur PLU. Alors, effectivement, c'est la dernière réunion publique, ça ne veut pas dire que la concertation est terminée, hein, puisque la concertation dure tout le long de la procédure de PLU. Donc, les documents qu'on va vous présenter seront mis à disposition auprès du service de l'urbanisme à partir du mois de septembre. Alors, pourquoi septembre, vous me direz, c'est que, en fait, le document qu'on vous présente, il n'est pas tout à fait abouti. Hein, il y a encore des corrections à conduire. On voulait absolument faire la réunion publique avant l'été, en disant qu'après, ben, les gens partent, c'était un peu plus compliqué. Donc, on se garde, nous, en interne, les mois d'été pour faire les dernières petites finitions, hein, qu'il y a à faire sur ce document. Et donc, il sera mis à disposition à la mairie, hein, auprès du service d'urbanisme. Voilà. Et puis, après, effectivement, il y aura, en début de 2019, hein, l'enquête publique, donc là dans un cadre officiel avec la commissaire enquêteur, etc., etc. Voilà. Alors, avant de nous attarder sur l'ordre du jour de notre réunion, je vais quand même faire un petit rappel, parce que je m'excuse d'insister sur le contexte réglementaire pour que vous compreniez bien dans quel cadre on a travaillé. Voilà. Et quand le maire vous dit que notre nouveau PLU se solde par la disparition de 65 hectares, c'est jamais le pied de cœur que des élus ou des urbanistes le font. Voilà. On n'éprouve pas de plaisir particulier à retirer les terrains constructibles. C'est la loi, hein, qui a évolué et effectivement, la mise en révision du PLU résulte d'une obligation de se mettre en conformité avec les dernières lois, hein, dont le maire parlait tout à l'heure. Et dans ces lois, le fil directeur, c'est vraiment la lutte contre l'étalement urbain et la maîtrise de la consommation d'espace. Alors, vous vous souvenez, j'avais dû vous expliquer ça pour ceux qui étaient à la première réunion, si on fait l'historique de la loi, hein, le constat était fait qu'autour des, au cours des 30 dernières années, il y a 20 millions d'hectares en France qui ont été artificialisés pour faire de l'urbanisation, des constructions, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a souvent donné l'exemple de l'équivalent d'un département français qui, tous les 15 ans, hein, est destiné à être artificialisé. Donc, la loi a complètement changé de donne, et c'est vrai que, ben, quand j'ai commencé ma carrière, hein, il y a déjà quelques années, et qu'on faisait des documents d'urbanisme, on était toujours, à chaque fois qu'on faisait un document d'urbanisme, on en rajoutait toujours des surfaces. Et depuis ces lois, on est dans l'exact opposé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on révise un PLU, on enlève les terrains constructibles. Je pense que vous lisez la presse, hein, et vous voyez bien que dans toutes les communes avoisinantes, on est exactement dans la même démarche. Voilà. Alors la loi nous dit effectivement, hein, alors je cite deux ou trois articles, on ne va pas tous les lire bien sûr, mais l'article fondateur du Code de l'urbanisme, hein, qui est l'article L100-1-2, dit que donc les collectivités locales doivent avoir une utilisation économe des espaces naturels, doivent donc veiller à la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières. Donc ouais, c'est vraiment l'article qui fonde le Code de l'urbanisme. On doit préserver les espaces agricoles et naturels. Et puis après, donc le Code nous dit bien que quand on fait un PLU, hein, on doit d'abord analyser la capacité de densification et de mutation des espaces qui sont déjà bâtis, et qu'on doit donc, le PLU doit favoriser, hein, la densification de ces espaces pour limiter la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers. Donc ça veut dire très concrètement, la loi nous dit avant d'aller investir, aménager, occuper des terrains qui sont à l'extérieur des villes et des villages, il faut qu'on remplisse le tissu urbain existant. Ce qu'on appelle le jargon est en creuse, hein, donc c'est des terrains qui ne sont pas bâtis au milieu de parcelles qui sont déjà urbanisées, c'est la densification, on casse, on construit, on divise des terrains, etc., etc. Et donc nous, tout le travail qu'on doit faire quand on fait un PLU, c'est de démontrer qu'on va en priorité utiliser ces espaces-là. Et puis le dernier article, et après j'arrêterai de les assommer avec les questions réglementaires, mais un dernier article du Code de l'urbanisme qui dit bien que le PLU, dans son PLD, doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace. Voilà. Donc, pour résumer ce que je viens d'expliquer, l'objectif numéro 1 d'un PLU, c'est d'avoir une consommation modérée de l'espace. On doit construire plus dense, on doit éviter d'artificialiser des espaces agricoles et naturels. Voilà. Donc vraiment, tout ce travail a été fait. Et donc, la réduction des surfaces urbanisables qui sont issues de la réflexion du PLU d'Arrache résulte de l'application de cette obligation. Hein, ce ne sont pas des volontés politiques. Les élus, depuis le début, se sont battus pour sauver les terrains partout où ils pouvaient. Il y a eu un travail de longue haleine avec les services de l'État. Le maire nous a fait un petit historique. Mais on est obligé de se plier à la loi, sinon le préfet va nous rappeler à l'ordre. Voilà. Donc le deuxième point, je vais faire un tout petit rappel, mais c'est pareil, il y a juste deux diapos. Sur le projet d'aménagement et de développement durable, donc le PADD, qui est un peu le cœur du PLU, hein, qui explique les orientations. Donc ce document, qui a fait l'objet de nombreuses réunions de travail, et qui a fait l'objet d'une prévalidation par les services de l'État, a été débattu au Conseil municipal du 23 mai 2018. Voilà. Alors je dis bien que ce travail a été élaboré conjointement avec les services de l'État. Hein, vous vous souvenez, j'avais expliqué au cours de la première réunion qu'en fait, une collectivité, quand elle réalise son PLU, elle n'est pas seule au monde. Voilà, hein. Elle est, alors, j'avais utilisé l'expression, elle est en liberté surveillée. Voilà. Alors effectivement, la commune a la compétence d'urbanisme, mais le préfet veille de très près à ce qui se passe dans la commune, au niveau de l'urbanisme. Alors, donc, notre PADD, bien évidemment, je reprends volontiers, hein, bien sûr, hein, mais sur cette thématique de la consommation d'espace, va concentrer prioritairement le développement futur dans les espaces qui sont déjà équipés et déjà urbanisés, donc ce qu'on appelle dans le jargon de l'urbanisme les enveloppes urbaines, donc des espaces qui sont déjà urbanisés. Par contre, quand on a étudier notre projet, on a vu que les capacités de densification, d'urbanisation dans ces enveloppes urbaines ne sont pas tout à fait suffisantes pour répondre au programme de développement qui a été retenu par la commune. Voilà. Donc, je rappelle qu'au cours des 10 prochaines années, hein, parce que la durée de vie d'un PLU c'est 10 ans, au bout de 10 ans vous êtes obligé de réaliser le PLU, même si, comme l'expliquait M. le maire, on peut le faire avant. Hein, mais au bout de 10 ans, on est obligé de le faire. Et donc, le programme sur lequel on a bâti notre PLU, c'est 2500 lits touristiques nouveaux, c'est 300 habitants supplémentaires à accueillir, et c'est la réalisation d'un certain nombre d'équipements touristiques ou d'équipements publics. Donc, notre PLU s'articule sur l'urbanisation dans les enveloppes urbaines, et comme on n'a pas tout à fait cette place pour faire le programme, on va par exception, si je puis dire, prévoir quelques secteurs d'extension urbaine. Hein, donc quand on parle d'extension urbaine, c'est quand on va urbaniser à l'extérieur des espaces urbanisés. Hein, au Moyen-Âge, on disait intramuros, extramuros. C'est un peu ça, l'enveloppe urbaine. Hein. Alors, les quelques secteurs qu'on a retenus, après on verra tout ça dans le détail, hein, mais là je vous donne un petit peu le cadre. C'est un secteur d'expansion à Fennes, dans le secteur des hameaux de Fennes, c'est un petit secteur. Au Carreau, on a deux zones d'extension qui sont prévues, une dans le secteur de Quédeuse vers la télécabine, et une au Carreau Ouest, dans le secteur de la zone de loisirs, de son extension. On a également un projet d'extension urbaine dans le secteur du Laï pour permettre la réalisation du projet de remontée mécanique qu'on appelle les carreaux en massif, hein, donc c'est la plaine du Laï, la plaine de Pupoir. À Arrache, on aurait deux extensions possibles, hein, dans un objectif de renforcer un petit peu la position du chef-lieu. Parce que si on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, ben finalement, l'urbanisation, elle s'est faite surtout en dehors du chef-lieu. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une volonté de redonner un petit peu de possibilités de construire au chef-lieu. Et donc, il y a deux secteurs qui sont retenus, le secteur des Champs et le secteur de Bois-Rosset. Par contre, dans les hameaux, hein, donc la phrase, voilà aussi, etc., il n'y a pas d'extension urbaine possible. Donc là, on est juste dans la densification des hameaux existants. Voilà. Voilà un petit peu pour vous aussi fait le cadre, pour que vous compreniez que ce travail n'a pas été fait au hasard. Donc, on va... Oui, madame.
Une question au sujet des champs. Qu'est-ce que vous entendez par le secteur des champs?
Alors, je préférais, ça ne vous dérange pas, qu'on regarde les questions pour la fin.
Vous allez voir tout à l'heure, oui. En fait, dans la cartographie, si vous voulez, qui va vous être présentée, ce que dit M. Bier, vous verrez exactement si vous en faites les zones concernées. Elles vont réapparaître tout de suite, juste après. Voilà, elles seront identifiées, vous verrez parfaitement bien ce qu'il en est, entre ce qui était prévu, ce qui a été modifié et ce qui apparaît dans la technique. Voilà, vous verrez la cartographie.
Alors, si vous, d'ailleurs, j'en profite pour dire à tout le monde, si vous le voulez bien, je voudrais faire mon exposé dans sa globalité, parce que je pense qu'il y a déjà un certain nombre de réponses aux questions qu'on peut se poser qui sont prévues dans l'exposé. Et bien évidemment, après l'exposé, il y aura un temps de questions pour ceux qui n'auraient pas bien compris ou pas vu certaines choses. Voilà. Alors, maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet, c'est le plan de zonage. Je vais vous montrer un petit peu comment on a travaillé et ce qu'on a fait. Alors, je vais recadrer un petit peu la façon dont on va travailler. Je vais surtout vous exposer la grille de lecture, hein, comment il faut lire ces documents, comment on a travaillé. Et je vais passer relativement vite sur ces documents de zonage. Alors, on n'a strictement rien à cacher, hein, mais la commune est grande, il y a beaucoup de hameaux. Si on commence à zoomer sur le détail de chaque hameau, ça risque d'être très long, très laborieux. Donc je vous renverrai à la possibilité que vous avez de venir regarder tranquillement le plan en mairie, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas s'attarder sur la parcelle de tout le monde. Ce n'est pas l'objet, hein, de la réunion, et en termes de temps, ça serait difficile à gérer. Donc mon exposé, ça va plus être de vous montrer ce qu'on a fait, comment on a travaillé, etc. Et après, vous aurez tout le loisir, hein, de consulter les documents tranquillement en mairie. Éventuellement, je ferai un petit zoom sur un secteur pour que vous voyez dans le détail ce qu'on a fait. Hein. Je dis bien, on n'a strictement rien à cacher. De toute façon, ce sont des documents qui sont publics dans la mesure où les études sont suffisamment achevées. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin d'encore quelques semaines pour finir notre travail. Alors, déjà un petit mot sur la lecture d'un plan, donc comment il faut lire un plan. Donc, dans un PLU, il y a quatre zones. La première zone, c'est la zone urbaine, qu'on appelle U. Donc, les terrains qui sont classés en zone U, ce sont des secteurs qui sont déjà urbanisés, dans lesquels les équipements publics existants, hein, ou qui sont en projet, sont suffisants pour desservir les constructions futures. Donc, une zone U, c'est une zone qui est constructible tout de suite, sans contraintes spécifiques. Et alors, on a fait effectivement un certain nombre de sous-secteurs, puisque votre commune est très grande, on a beaucoup de configurations différentes, des tissus urbains différents, des morphologies différentes, des architectures différentes. Donc, on a classé en dizaines de sous-secteurs, à peu près. Donc, on a le secteur UA qui correspond au noyau historique, hein, donc ce sont les vieux villages et les vieux hameaux. On a le secteur UB qui correspond à l'habitat collectif dense, secteur des carreaux, c'est le secteur de non-famille, des servages, des moulins, hein, donc le secteur d'habitat collectif, hein, d'habitat dense. On a le secteur UC qui est un secteur d'habitat mixte, intermédiaire, donc on a du petit collectif et du logement individuel, on a une densité qui est moyenne. Et on a le secteur UD, qui est un secteur qui est plutôt occupé par de l'habitat individuel, qui est moyennement dense, les chalets, les secteurs de chalets. Alors après, on a un autre sous-secteur, qui s'appelle le secteur UEP, qui est réservé à des équipements publics, hein, donc ne sont autorisés que des équipements publics. On a un secteur UX, qui est destiné à des activités artisanales et commerciales. Et puis, on a le secteur de flemme, qu'on a appelé UF, comme flemme, qu'on a divisé en trois secteurs. Donc, le secteur UF1, c'est le secteur de flemme historique, hein, donc flemme forêt, flemme forum. Le secteur UF2, qui correspond à flemme Mont-Soleil, et la partie hameau du hameau de flemme, donc la partie la plus dense, hein, où il y a des collectifs. Et puis, on a le secteur de flemme qu'on a appelé UF3. Qui est la partie aval du hameau de Flaine, donc le hameau norvégien. Voilà. Donc ça, ce sont les zones U. Après, on a des zones à urbaniser. Donc, comme le nom l'indique, ce sont des terrains qui ont vocation à être urbanisés, mais pour lesquels les conditions ne sont pas complètement réunies. Hein. Donc, le BU va donner un certain nombre de conditions pour permettre l'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs. Ce sont soit des équipements publics qu'il faut réaliser, hein, comme par exemple, il n'y a pas de dessert par les réseaux de musées, hein, par exemple, ou ce sont des conditions d'organisation interne à la zone. Voilà. On a besoin d'organiser le secteur, à l'intérieur du secteur, de faire des routes, des choses comme ça. Donc, la zone à urbaniser, à U, est constructible sous condition. Et on a deux sous-secteurs, hein, la zone 1 AU, qui est la zone à urbaniser à court terme, et la zone 2 AU, qui est une zone à urbaniser à un peu plus long terme, à moyen terme. Et puis donc après, on a la zone agricole, hein, qu'on appelle A, voilà, qui est une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, hein, de la richesse biologique et économique des terres. Alors, on peut avoir des sous-secteurs, hein, par exemple, quand on a des zones humides, on a un sous-secteur ZH, hein, donc la zone AZH, c'est une zone agricole qui est dans un secteur humide. Et puis, on a la zone naturelle, alors qui couvre chez vous, je ne sais pas, peut-être 80% hein, du territoire de la commune, j'ai plus les chiffres de la en tête. Donc, ce sont les secteurs qui sont à protéger pour la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, etc. Et pareil, on a des sous-secteurs dans cette zone naturelle, parce que cette zone, par définition, est inconstructible, hein, la zone naturelle est inconstructible, mais il y a certaines dérogations qui sont prévues par la loi, que ce soit par exemple pour faire des aménagements domestiquables, des petits équipements de loisirs, des choses comme ça. Donc, par mesure d'exception, on peut quand même construire dans cette zone naturelle. Et donc, dans ce cas-là, on fait des sous-secteurs. Et je me permets de dire au passage que pour permettre d'urbaniser dans les secteurs naturels, il faut en préalable au vote du PLU obtenir l'autorisation d'une commission spéciale. Il y en a même deux, il y a deux commissions. Donc on a prévu de déposer nos dossiers au mois d'août pour passer en commission au mois de septembre pour donc déroger à la règle d'inconstructibilité en zone naturelle. C'est par exemple pour faire des restaurants d'altitude, des choses comme ça. Voilà. Voilà pour l'explication, hein, donc urbaine U qui consiste tout de suite à urbaniser, agricole, naturel. Voilà. Donc après, je vais vous présenter plusieurs séries de plans. Donc d'abord, je vais vous présenter le plan de zonage tel qu'on l'a imaginé aujourd'hui. Alors je dis bien, c'est des diapos un petit peu générales. Si a besoin, tout à l'heure, je ferai un zoom sur le quartier, hein, pour que vous voyez mieux. Et après, on va expliquer, hein, dans la suite des plans, voir l'évolution, hein, entre le PLU actuel et le PLU futur, de voir pourquoi, pour quel motif on a enlevé les terrains, et de voir également quelles sont les capacités constructibles de notre futur PLU. Voilà. Donc, sur ces documents, vous voyez qu'on a, on a mis, alors là on est par exemple dans le secteur des hameaux, hein, on est sur le secteur de la phrase, hein, la phrase balancée, etc. Donc on a mis effectivement, comme c'est le cas pour le PLU aujourd'hui, hein, ça il n'y a pas de nouveauté, on met un code couleur pour chaque type, hein, de zonage. Et donc là par exemple, on voit dans ce secteur-là, tout ce qui est en rouge, ce sont les vieux hameaux, hein, c'est la fameuse zone UA dont on parlait tout à l'heure, et ce qui est en blanc, le secteur des zones d'extension. Alors, là, je passe relativement vite, parce que dans le secteur des hameaux, on a dit qu'il n'y avait pas d'extension. Hein, donc on est vraiment, on a pris le périmètre des constructions qui existaient, et on va pouvoir exister sous condition qu'on ne soit pas dans le cadre de construction isolée. Hein, il faut qu'il y ait des groupements suffisamment importants, bien évidemment, hein, qu'on a localisés. Donc ici, par exemple, on est dans le secteur, là on est sur Arrache, donc je vais prendre peut-être mon pointeur pour qu'on voit un peu mieux. Donc on est sur Arrache, on voit en rouge tout ce qui concerne les vieux villages, ici. On a les zones d'habitat existantes qui sont un jaune un petit peu pâle, qu'on voit ici. Et puis vous voyez, on a des zones un petit peu plus denses, plus colorées ici, et les zones d'extension, hein, qui sont prévus donc autour d'Arrache. Donc on a le secteur de Bois-Rosset et le secteur des champs qui sont ici. Voilà. Il y a la réponse à la dame après. Non, je vais répondre à votre question, madame. Oui. Non, mais on verra un petit peu le point, vous inquiétez pas. Là, on fait déjà un balayage global et après on rentrera plus en détail. Donc ici, par exemple, sur cette diapo, on est au carreau, hein, donc on voit bien toutes les zones constructibles. Alors, on devine, je sais que les blancs ne sont pas... Ah non, ça, en contre-jour, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien en contre-jour, je suis d'accord. Je ferai un agrandissement tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, sur les carreaux d'Arrache, on a collé, hein, aux zones déjà équipées, sauf les exceptions dont on parlait tout à l'heure. Et ici, donc, on est sur Flaine. Et sur Flaine, les droits à construire à Flaine ont été accordés par les autorisations UTN de 2003 à 2008. Il reste un certain nombre de mètres carrés à construire. La seule extension qui est prévue est ici à Flaine. Voilà pour la présentation. Ne vous inquiétez pas, on verra quand tout à l'heure. Voilà. Alors, après, si on regarde effectivement, dans le futur PLU, quelles seront les possibilités de construction, les possibilités d'urbanisation de ce document d'urbanisme? Alors, dans le secteur de la phrase et des hameaux, on a à peu près 1,5 hectare disséminé dans des dents creuses. Dans le secteur de Arrache et des hameaux qui sont mitoyens, donc c'est l'Aisnan, le Lacha, le Laï, on a environ 4 hectares dans les dents creuses, et 3 hectares d'extension. Au carreau, il y a 4 hectares dans les dents creuses et 1 hectare d'extension. Et à Flaine, on a 1 hectare d'extension au Gérard et 1 hectare d'extension au hameau de Flaine. Donc on a à peu près 16 hectares constructibles pour la destination de l'habitat, hein, dans notre futur PLU. Auquel il faut ajouter 1,6 hectare pour l'extension de la zone de loisirs et 2 hectares pour des équipements publics. Donc si on prend la totalité des surfaces constructibles de notre PLU, on est autour de 20 hectares. Alors c'est pareil, on a fait un plan où on a localisé tous les terrains qui sont constructibles. Alors je passe un petit peu vite, hein, on voit bien les taches de couleur. Bon, ici on est dans le secteur de Arrache, hein, donc on voit bien les taches rouges, c'est les terrains qui sont dans des espaces déjà urbanisés, et les taches jaunes, ce sont des terrains qui sont en dehors, hein, des espaces urbanisés. On a fait la même chose donc au Carreau et à Fèvre. Et puis donc, on a après regardé l'évolution du zonage, hein, donc la différence entre le PLU précédent et le PLU futur. Donc on a à peu près retiré 90 hectares de surface constructible dans le PLU actuel, et par contre on en a ajouté 23. Hein. Il y a un jeu de chaises musicales, et parce qu'il y a eu un certain nombre de régularisations qu'on a fait, etc. Donc on va voir dans les cartes suivantes à quoi ça correspond. Donc en fait, au total, ça se solde par la suppression de 67 hectares. Alors, les chiffres, il faut les prendre, ce n'est pas les chiffres définitifs, hein. Le PLU peut encore un petit peu bouger. Donc comme disait le maire, on va être entre 65 et 70 hectares, enfin, ça va être la fourchette, hein, de secteurs qui sont supprimés. Donc, sur les cartographies suivantes, on a fait la distinction. Donc on a mis en bleu tous les terrains qui ont été enlevés, enfin qui vont être enlevés du PLU, et en rouge, les terrains qu'on a ajoutés. Alors très souvent en rouge, les terrains qu'on a ajoutés, c'est qu'on a fait des régularisations. C'est-à-dire que pour des raisons que je ne connais pas, parce que je n'ai pas l'historique du PLU précédent en tête, il y avait des secteurs urbains qui n'étaient pas classés en zone constructible. Donc on a fait toutes ces régularisations. Donc là, par exemple, on est dans le secteur de la Frasse et des Hameaux. On a fait la même chose donc, dans le secteur d'Arrache. Hein, on voit bien qu'on a enlevé beaucoup de zones, hein, autour du chef-lieu. On a gardé que la partie qui est vraiment très proche du village. On a fait le même travail au Carreau. Ah, donc toujours en rouge ce qu'on a ajouté et en bleu ce qu'on a enlevé. Et pareil à Fèvre. Voilà. Donc après, quand on voit cette carte brute, c'est vrai qu'on prend un peu peur. Hein, on se dit, voilà, mais ils ont enlevé beaucoup de terrain. Mais en fait, quand on regarde l'explication, et c'est la dernière partie de mon exposé, on voit qu'il y a beaucoup de terrains qui sont enlevés pour des motifs qui ne sont pas forcément du ressort direct de la commune. Alors, si on regarde le motif de retrait de la zone constructible, on a mis 7 raisons possibles. La première, c'est pour des motifs juridiques. Donc, c'est des terrains qui ne respectent pas la loi montagne. Alors, la loi montagne est assez ancienne, hein, elle date de 1985. Alors, déjà, elle a été un petit peu longue à être appliquée, et en plus, elle a été révisée il y a quelques années, et maintenant, elle est appliquée de façon beaucoup plus stricte. Et cette loi montagne dit de façon très claire qu'on n'a plus le droit d'urbaniser en discontinuité des secteurs qui sont déjà construits. Donc, on a plein de secteurs, hein, on va le voir dans la carte suivante, on a plein de secteurs de la commune qui sont en discontinuité, et donc, le fait de retirer ces terrains, c'est une obligation de se mettre en conformité avec la loi montagne. Après, on a un deuxième motif, c'est que depuis le PLU de 2005, la commune a été soumise à 2 plans de prévention des risques naturels, hein, ce qu'on appelle les PPRN. Donc il y en a un sur Arrache et un sur Fènes. Donc ces PPRN, sur le document qui étudie les risques naturels, ont classé un certain nombre de secteurs en risque fort, donc en risque inconstructible. Donc déjà aujourd'hui, même si le PLU n'est pas révisé, les dispositions du PPR sont dès à présent applicables. Donc des terrains qui sont classés en zone dite rouge, hein, donc les zones rouges du PPR sont des zones à risque fort qui sont inconstructibles. Dès aujourd'hui, même si vous avez un terrain qui est classé en zone constructible dans le pays, mais qui est classé en zone rouge du PPR, le permis de construire est automatiquement refusé. Voilà. C'est le cas par exemple de Fènes, hein, on va voir tout à l'heure, il y a quasiment toute la station de Fènes historique, hein, donc Fènes Forêt, Fènes Forum, quasiment toute la station de la station de Rouen, donc on ne peut plus construire. Donc toutes ces surfaces, on les a enlevées, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de se mettre en conformité avec le PLU. Le troisième motif, ce sont les motifs environnementaux. On a, par exemple, des zones humides. Alors, effectivement, ça aussi, quand on a fait le PLU 2005, il n'y avait pas tous ces inventaires environnementaux. Hein. On va dire que les contraintes environnementales sont issues des lois de 2009-2010, donc c'était après votre PLU. Et donc, on a maintenant un tas de documents, un tas de cartographies, et tous les secteurs à fort enjeu environnementaux, je pense notamment aux zones humides, on a l'obligation de les rendre inconstructibles. Donc, on les a enlevés. Après, on peut avoir des motifs de préservation agricole, hein, puisque les lois agricoles ont été votées, c'est pas il y a 4-5 ans, demandent que dans les PLU, on évite le morcellement des grands espaces agricoles. Ensuite, on peut avoir des problèmes de topographie localement. C'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les services de la mairie, on est allé sur le terrain, voir beaucoup de choses, etc., qu'il y avait des terrains qui étaient classés constructibles dans le PLU, mais qui franchement étaient tellement raides ou difficiles d'accès qu'en fait la constructibilité était quand même très théorique. Donc on va dire que tout ce qui est réseau topographique et problème d'accès, on a enlevé ce terrain-là parce que réellement ce terrain n'était pas vraiment constructible. Et puis, donc, le dernier point qui est arrivé, alors c'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon d'urbanisme des raisons comptables. Alors c'est pas de la comptabilité dans le sens des bilans d'entreprise, mais c'est pour la mise en application de la fameuse loi Allure dont on parlait tout à l'heure, qui nous oblige à respecter cet objectif de limitation de la consommation. Donc on va dire cette dernière case, c'est le coup de rabot hein, que la commune, pardon, que l'État nous a demandé de mettre en disant bah non, dans les discussions qu'on avait, vous avez encore trop de terrains constructibles, enlevez-les. Donc cette dernière catégorie, c'est des terrains que la commune aurait souhaité garder constructibles, parce que vous avez bien compris que les 6 cases précédentes, de toute façon, ces terrains-là, on ne peut pas les garder constructibles. Bon, on n'a pas le choix. Cette dernière case, on a appelé des raisons comptables, hein, la commune souhaitait les garder, et c'est dans les discussions qu'il y a eu avec les services de l'État qu'on a imposé à la collectivité de supprimer. Voilà. Donc c'est là-dessus que le choix s'est fait, avec parfois un peu de douleur du point de vue des élus. Donc on a fait cette cartographie, voilà, où on a mis un code couleur hein, pour chacun des motifs que je vous ai expliquer, et on se rend compte que finalement, dans tous les choix que nous ont imposés, hein, quand on parle des zones humides, du PPA, etc., c'est quasiment 60-70% hein, des fameux 65 hectares qu'on enlève, qui sont, on va dire, pas négociables, pas discutables, hein, parce qu'aujourd'hui, on ne construit pas dans les zones à risque, on ne construit pas dans les zones humides, on ne construit pas d'accès, hein, etc., etc. Et c'est vrai que la variable d'ajustement, elle s'est faite sur le motif de la comptabilité dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Et donc, on a fait ça pour l'ensemble de la commune. Donc, ben, pour les gens, ces documents hein, seront consultables, hein, ils seront mis à disposition de la commune. Ben, vous pourrez avoir l'explication hein, sur la raison du déclassement. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que parfois, il y a plusieurs critères qui se superposent. Hein. On a voté 7 critères. Parfois, je peux avoir en même temps un motif juridique et un motif d'accès. Vous voyez, c'est pas binaire comme ça. Alors, si on regarde la question que vous posez, madame, tout à l'heure, par rapport à la fuite des champs. Alors, la fuite des champs sur le document, elle est ici. Voilà. Et on voit que toute cette partie-là a été supprimée, la fuite des champs. La partie qui est en bleu, oui, alors l'église est quelque part ici. Là, il y a un point rouge, l'église est là. En fait, on monte dans le vieux village, la mairie est quelque part ici. Hein. La mairie est là, l'église est là. Et donc, le vieux village est ici, et c'est tous les champs qui sont sur la butte, hein, qui dominent le hameau, hein, le village. Voilà. Et donc, par exemple, dans ce secteur-là, il y avait un très grand secteur qui était constructible. possible. Et donc, on a enlevé une partie, parce qu'en fait, il y a un très gros problème d'accès, hein, donc on l'a dit en bleu, parce que là, il y a vraiment un problème d'accessibilité à ce secteur-là, c'est très compliqué à desservir. Et l'autre partie, eh bien, a été enlevée, parce que dans les discussions qu'on a avec les services de l'État, ils nous ont dit, faites d'abord une première tranche, et puis vous ferez du lotissement, hein, et vous ferez la deuxième tranche plus tard. Voilà. Donc c'est un exemple très concret, hein, qui répond peut-être partiellement à votre question.
Je voulais compléter pour cette deuxième tranche qui a été mise en sommeil. La première tranche, en effet, doit être réalisée si, en effet, les propriétaires arrivent à l'issue de la réalisation de la première tranche qui était maintenue. La mise en sommeil de la deuxième peut être active. Voilà, donc par contre, la partie bleue foncée, celle-ci, est hors débat immédiat. Par contre, si vous voulez, la partie verte qui est maintenue en contrepartie, enfin, en mutualité de village, par rapport à la partie grise, elle est mise en sommeil, celle-ci, pour ce secteur-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'association foncière européenne est active, et que, étant active, elle a déposé en fait un plan d'orientation générale, d'aménagement de l'ensemble de ce secteur. Mais c'est pas pour autant que ce plan d'aménagement qui a été déposé donne raison à ce que la globalité soit mise en service tout de suite en matière d'orientation, d'organisation. Donc il est demandé par les services de l'État, est-ce que dans un premier temps, on démontre que l'AFUE est capable de réaliser ses premières tranches pour ensuite aller à la deuxième tranche. Voilà, parce que cette AFUE, elle est active. Ce qui n'est pas le cas pour Bois-Rosset. Alors Bois-Rosset, peut-être que Vincent peut peut-être vous lécher du sel. Voilà, donc vous constatez que toute cette zone qui est fléchée en haut, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'AFUE de Bois-Rosset, mais cet AFUE n'était pas actif. Donc conclusion, la majorité de ces terrains, trois quarts des terrains de Bois-Rosset ont été supprimés, au profit de laisser un quart dans une continuité logique d'aménagement du centre du village. Mais il n'y a plus de notion d'AFUE, c'est-à-dire qu'à l'inverse des champs, où la notion d'AFUE l'emporte sur la possibilité de faire dans un deuxième temps, Bois-Rosset doit se contenter uniquement que des terrains qui sont rentrés dans le PLU, dans un PLU classique, et qui sont totalement sortis de toute prérogative dite d'AFU. Au même titre que l'AFU est très pertinent. Pourquoi ? Simplement parce que l'ensemble des propriétaires ne se sont pas mobilisés entre eux pour faire en sorte que leur association vive. Et puis, si vous voulez en fait démontrer la collectivité, donc à l'État, il y avait des plans d'aménagement qui étaient retenus et qu'on pouvait partir du principe qu'un aménageur pouvait s'intéresser pour le développement. Alors, très pertinent, ça n'a pas fonctionné, donc l'AFU n'a pas pu aller au bout de ses projets parce que certains propriétaires n'ont pas souhaité aller au bout, donc ben, ça a capoté. Et voilà, c'est l'AFU n'a jamais démarré, donc l'AFU n'existe plus. Mais dire, par définition, il y a la différence entre ce point particulier, c'est en fait sur les trois AFU de collectivité, dont il ne reste plus qu'une, qui elle doit démontrer qu'elle est capable de faire sa première tranche, pour ensuite, si vous voulez, peut-être atteindre le deuxième objectif. Voilà.
Alors, effectivement, là on est sur la planche qui concerne les carreaux, et on voit toute cette tache bleue, c'est la fuite très permanente. Donc là, on a une très grosse problématique d'accès qui n'a pas été résolue en temps et en heure par les propriétaires. Donc on déclasse ce terrain pour des outils d'accès. Et puis, la dernière des diapos...
Ce que l'on peut dire aussi pour toutes et tous, hein, c'est qu'une grande majorité des propriétaires de Trépernant, dans le cadre de l'AFU, se sont rigoureusement mobilisés pour espérer un accord fondamental de tous les propriétaires. À partir du moment où il y a un ou deux ou trois propriétaires qui ne suivent pas, je dirais, la volonté de mettre un plan d'aménagement organisé et de ne pas raison, je dirais en fait, à cette notion d'affût organisé, bien l'affût est bloqué de ne pas avancer. Or Dieu sait que nous avons reçu en mairie, à maintes et maintes reprises, le bureau de cette association qui était longtemps actif, vraiment volontaire, avec des plans d'aménagement, avec des zones pour lesquelles on on disait, mais écoutez, voilà, la partie haute, on la supprime, on maintient la partie basse, etc., etc. Mais à chaque fois, ils se sont confrontés à une situation de constater que des propriétaires ne souhaitaient pas rentrer dans le bureau d'État, et obligatoirement, il faut qu'il y ait la totalité des propriétaires qui rentrent dans ce circuit pour pouvoir donner raison à l'avis de cet affût, et bien sûr au plan d'aménagement qui pourrait être proposé. Alors, ce qui est bien sûr dommage, entre guillemets, qu'on soit face à cette situation qui n'était pas une situation qui allait contre les droits de propriété des habitants, puisque par définition, au contraire, c'est là ce que j'ai noté tout à l'heure. Depuis le début, pendant l'heure et demie, mobilisez-vous, parce qu'à un moment donné, on risque d'être obligé. Malheureusement, cette mobilisation qui a été fortement engagée n'a pas été suivie par la totalité des propriétaires, eh bien, l'affût de très présent qui a été fléché tout à l'heure, juste avant, malheureusement, passe en zone inconstructible. Ce n'est pas pour autant qu'en bordure, morceaux de terrain qui pouvaient en effet rentrer dans ce maintien de l'organisation, ça a été fait, mais c'est marginal par rapport en fait, à la zone, dans sa globalité telle qu'elle était en effet fléchie. Ce qui est regrettable parce que on avait espéré sincèrement que l'ensemble des propriétaires vraiment donnent un avis favorable à cette situation, parce qu'entre autres, il y avait vraiment une totale différence d'approche, de définition entre l'affût des champs, qui a plus une vocation, je dirais, de résident permanent, de vie, je dirais, en fait, quotidienne, douce, correspondant, en fait, à la notion de vie-village. À l'inverse de très permanent, qui était un réservoir intéressant, en fond de neige, avec un départ et un retour, ce qui est pris. Et là, c'était, bien évidemment, un élément qui est... Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que M. Abbé l'a dit, il a complété, et j'ai dit en introduction, ce n'est pas pour autant que la vie s'arrête. C'est-à-dire qu'une fois que ce PLU sera réalisé, rien n'empêchera, soit d'attendre le maximum d'années, c'est-à-dire 10 ans, j'ai dit tout à l'heure 8-9 ans, donc 10 ans, soit de considérer que, bien, l'élan économique étant, le conseil municipal, au cours de sa vie, puisse déclencher un intérêt de remettre une révision en cours, pour réaborder ces sujets et redonner, si vous voulez, en fait, une visibilité. Donc, dire que la vie d'une commune ne s'arrête pas parce que le PLU a été aujourd'hui fléché à hauteur de ces hectares qui vont être supprimés, ça ne s'arrête pas puisque, par définition, la vie continue, les générations continueront, il y aura une vie économique, et bien évidemment, ces discussions de terrain stratégique reviendront tout à l'heure autour de la table, avec peut-être de nouvelles lois, car en effet, on est malgré tout tributaire des lois, et sans pile ni directeur, des fois, on ne comprend même pas. Ces lois qui, des fois, sont totalement même opposées entre elles, mais il faut qu'on les applique. Et j'évoquais certains des administrés avec lesquels j'ai discuté sur ce sujet. Moi, quand j'ai été élu en 1989, quelle facilité nous avions pour mettre en place nos plans d'occupation des sols, c'était les postes. Quelle facilité, parce qu'on avait, par contrainte, d'État. Et le dernier PLU duquel nous sortons, est un PLU que j'ai en fait managé avec l'équipe à l'époque, quelle facilité nous avons eu pour, en effet, mettre à l'inverse un paquet d'hectares constructifs pour justement prévoir l'avenir sur plusieurs générations. On ne peut pas imaginer que quelques années après, les lois du flot, la loi du, etc., nous fassent un exposé complètement à l'inverse avec des préfets qui appliquent à la règle et des directives d'État et nous entraînent à ces suppressions qui sont évoquées ce soir. On peut dire qu'en effet, rien ne nous met pas à l'abri de nouvelles lois qui peuvent être davantage délicates à appliquer ou qu'on donne une certaine souplesse pour, sinon en fait, redonner de l'oxygène au public à C'est la grenellisation que j'ai évoquée tout à l'heure, sur laquelle le préfet nous a dit en mandat, vous devez tous, commune, quelle qu'elle soit, être dans les clous à compter du 1er janvier 2018. Ben, voilà. Quelques mois après, tout le monde s'active, etc. Et puis, comme par hasard, cette date butoir disparaît. Voilà, donc on est, bien sûr, à la merci des parlementaires, des ministres, des gouvernements successifs. Et on subit, je dirais, entre guillemets, les aléas qui peuvent être soit positifs, soit négatifs, en ce qui concerne l'application, malheureusement, des directives qui nous sont imposées.
Très bien. Bon, et donc pour finir, c'est la dernière diapo, avant de passer aux questions. Là, on est sur Flaine et on voit bien que tout ce qui est dessiné en rouge correspond au secteur du PPR, hein, plan de prévention des risques. Donc finalement, quand on regarde toutes les contraintes qui s'accumulent, on est à 70 ou 75% de contraintes qui sont objectivement pas tellement négociables. Voilà, donc, voilà l'exposé.
Je prends également, si vous êtes par rapport toujours au directeur d'État, si vous prenez ces fameux PPR, au dernier réunion du poste, on avait un PPR en Flaine, qui était, je dirais, tout à fait tolérable au niveau des zones d'avalanche. Lorsque les directives nouvelles sont été appliquées pour la mise en place des PPR, on a constaté que le Flaine est quasiment rouge. Et comme on l'avait évoqué au cours de la réunion publique, si Flaine devait se construire aujourd'hui, Flaine ne verrait pas le jour. Voilà. Aucune autorisation de construction sur Flaine, si ce n'est sur la partie haute, côté des Gérards, la partie haute donc, qui est juste en aval du code de Pierre Carré. Voilà, là, si vous voulez, le moment est venu, bien évidemment, de rentrer dans le détail. Quand je vois le détail, c'est toutes les questions que vous souhaitez poser à M. Guillet en ce qui concerne l'approche de cette révision, en ce qui concerne ce zonage, comme il a été évoqué. On a cette malchance, je dirais, entre guillemets, d'une luminosité qui ne nous est pas favorable. Ce soir, tant mieux, parce qu'on a un grand soleil, mais ce grand soleil a perturbé. Après, vous êtes nombreux, vous êtes déplacés pour éviter d'avoir le soleil dans les yeux, mais en même temps, avec cet effet de réverbération, il était difficile de distinguer les différentes zones et les différentes couleurs. Ce qui n'empêche pas pour autant que nous puissions ne pas répondre à vos différentes questions, d'une part, et d'autre part, comme c'était dit, de mettre à votre totale disposition l'ensemble des planches qui ont été présentées ce soir, en synthèse, cet ensemble de planches qui du coup sont totalement disponibles en mairie auprès des services concernés. Donc, l'ensemble du service d'urbanisme piloté par Alexandre ici présent n'aura aucun problème en fait à vous accueillir avec Valérie, Myriam, Sonia pour vous rencontrer et vous donner, si vous voulez, en fait, lecture de ces planches. Ça fait partie, je dirais, des documents qui sont rigoureusement accessibles en mairie, d'une part, et ça peut vous permettre, d'autre part, de mieux préparer vos questions que vous souhaiteriez présenter, si vous désirez rencontrer, que vous souhaiteriez présenter en fait au commissaire enquêteur, puisque l'enquête publique est prévue. Voilà, donc au cours de l'été, au cours de l'hiver, début 2019, donc on va essayer de faire en sorte que l'enquête publique puisse être déclenchée, entre autres pendant les vacances scolaires, de manière à ce que la majorité des propriétaires en résidence secondaire intéressés par ce PLU viennent s'y rencontrer le commissaire et le enquêteur à cette. Et je crois que le PLU de commissaire enquêteur, ça peut durer d'un mois. C'est un mois. Voilà. Il y a un mois, sinon en fait, qui sont réservés. Voilà. Donc, un, vous venez vous inspirer des planches. Deux, vous présentez auprès du commissaire enquêteur si vous en estimez, bien sûr, l'intérêt. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat. Maintenant, M. Guillet, comme moi-même, nous sommes disponible, bien évidemment, pour répondre aux différentes questions que l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre d'entre vous souhaiteriez nous poser.